Chapitre 7 Misère et croix. Nous avons jusqu'ici emboîté le pas à cette action bourgeoise sans guère mettre à la compter plus de temps qu'elle n'en a mis à se poursuivre. Et maintenant, malgré notre respect, ou plutôt notre profonde estime pour l'observation des unités dans le roman même, nous nous voyons contraints de faire à l'une des trois un saut de quelques journées. Les tribulations de Stache, relativement à son neveu futur, seraient peut-être assez curieuses à rapporter, mais elles furent cependant moins amères qu'on ne le pourrait juger d'après l'exposition. Eustache se fut bientôt rassuré à l'endroit de sa fiancée. Jabot n'avait fait véritablement que garder une impression un peu trop fraîche de ses souvenirs d'enfance qui, dans une vie si peu accidentée que la sienne, prenait une importance démesurée. Elle n'avait vu tout d'abord, dans l'arquebusier à cheval, que l'enfant joyeux et bruyant, autrefois le compagnon de ses jeux, mais elle ne tarda pas à s'apercevoir que cet enfant avait grandi, qu'il avait pris d'autres allures, et elle devint plus réservée à son égard. Quant aux militaires, à part quelques familiarités d'habitude, il ne faisait point paraître envers sa jeune tante de blâmables intentions. Il était même de ces gens assez nombreux à qui les honnêtes femmes inspirent peu de désir. Et, pour le présent, il disait, comme Tabarin, que la bouteille était sa mie. Les trois premiers jours de son arrivée, il n'avait pas quitté Javot, et même il la conduisait le soir au cours la reine, accompagnée seulement de la grosse servante de la maison, au grand déplaisir de Stache. Mais cela ne dura point. Il ne tarda pas à s'ennuyer de sa compagnie et prit l'habitude de sortir seul tout le jour, ayant, il est vrai, l'attention de rentrer aux heures des repas. La seule chose donc qui inquiéta leur futur époux, c'était de voir ce parent si bien établi dans la maison qui allait devenir sienne après la noce, qu'il ne paraissait pas facile de l'en évincer avec douceur, tant il semblait tous les jours s'y emboîter plus solidement. Pourtant, il n'était neveu de Javot que par alliance. Étant né seulement d'une fille que feu l'épouse de Maître Goubard avait eu d'un premier mariage. Mais comment lui faire comprendre qu'il tendait à s'exagérer l'importance des liens de famille et qu'il avait, à l'égard des droits et des privilèges de la parenté, des idées trop larges, trop arrêtées et, en quelque sorte, trop patriarcales? Cependant, il était probable que bientôt il sentirait de lui-même son indiscrétion. Et Eustache se vit obligé de prendre patience, ainsi que les dames de Fontainebleau quand la cour est à Paris, comme dit le proverbe. Mais la noce faite et parfaite ne changea rien aux habitudes de l'arquebusier à cheval, qui même fit espérer qu'il pourrait obtenir, grâce à la tranquillité des croquants, de rester à Paris jusqu'à l'arrivée de son corps. Eustache tenta quelques allusions épigrammatiques que certaines gens prenaient des boutiques pour des hôtelleries, et bien d'autres qui ne furent point saisies ou qui parurent faibles. Du reste, il n'osait encore en parler ouvertement à sa femme et à son beau-père, ne voulant pas se donner, dès les premiers jours de son mariage, une couleur d'homme intéressé, lui qui leur devait tout. Avec cela, la compagnie du soldat n'avait rien de bien divertissant. Sa bouche n'était que la cloche perpétuelle de sa gloire, laquelle était fondée moitié sur ses triomphes dans les combats singuliers qui le rendaient à la terreur de l'armée, moitié sur ses prouesses contre les croquants, malheureux paysans français à qui les soldats du roi Henri faisaient la guerre pour n'avoir pu payer la taille et qui ne paraissaient pas près de jouir de la célèbre poule au pot. Ce caractère de ventrille excessive était alors assez commun. ainsi qu'on le voit par les types des taille-bras et des capitans matamor, reproduit sans cesse dans les pièces comiques de l'époque, et doit, je pense, être attribué à l'irruption victorieuse de la Gascogne dans Paris à la suite du Navarrois. Ce travers s'affaiblit bientôt en s'élargissant, et quelques années après, le baron de Fenest en fut le portrait déjà bien adouci, mais d'un comique plus parfait, et enfin la comédie du menteur le montra en 1662, réduit à des proportions presque communes. Mais ce qui, dans les façons du militaire, choquait le plus le Bonnestache, c'était une tendance perpétuelle à le traiter en petit garçon, à mettre en lumière les côtés peu favorables de sa physionomie, et enfin à lui donner en toute occasion vis-à-vis de Javotte une couleur ridicule, fort désavantageuse dans ses premiers jours où un nouveau marié a besoin de s'établir sur un pied respectable, et de prendre position pour l'avenir. Ajoutez aussi qu'il fallait peu de choses pour froisser l'amour-propre tout neuf et tout roide, encore d'un homme établi en boutique, patenté et assermenté. Une dernière tribulation ne tarda pas à combler la mesure. Comme Eustache allait faire partie du guet des métiers et qu'il ne voulait pas, comme l'honnête maître Goubard, faire son service en habit bourgeois et avec une hallebarde prêtée par le quartier, il avait acheté une épée à coquille, qui n'avait plus de coquille, une salade et un aubergeon en cuivre rouge, qui menaçait déjà le marteau d'un chaudronnier, et ayant passé 3 jours à les nettoyer et à les fourbir, il parvint à leur donner un certain lustre qu'il n'avait pas auparavant. Mais quand il s'en revêtit et qu'il se promena fièrement dans sa boutique en demandant s'il avait bonne grâce à porter le harnois, l'arquebusier se prit à rire comme un tas de mouches au soleil et l'assura qu'il avait l'air d'avoir sur lui sa batterie de cuisine.